Donc je travaille chez Aquitanis, c'est un bailleur social de Bordeaux. On a 95% de notre patrimoine qui est situé sur la métropole de Bordeaux, donc en zone assez tendue. On gère à peu près 20 000 logements, c'est l'équivalent de 35 000 personnes. Donc ça fait la ville d'Agen, en gros, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, on est un groupe, on a la partie Aquitanis qui est le locatif social, la partie Axanis qui est une filière du groupe pour l'accession sociale à la propriété. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur le rôle d'un bailleur social ou quoi aux caisses. Juste vous donner quelques éléments pour vous dire d'où on vient. Aquitanis a été créé en 1920 et on a un héritage. Notamment dans la vocation qu'on avait, c'était vraiment loger le plus grand nombre au lendemain de la guerre. Il fallait reconstruire le pays. Donc voilà, le grand ensemble était le type idéal de l'établissement humain. On avait aussi la vocation à lutter contre l'insalubrité, puisque beaucoup de choses étaient détruites. Et donc nous, Aquitanis, on est aussi porteurs de cet héritage, puisque dans notre patrimoine, sur la métropole bordelaise en tout cas, on est le bailleur qui a le plus grand nombre de grands ensembles, avec une densité d'à peu près 700, voire 2700 logements pour certains ensembles. Donc c'est des grands ensembles qui concentrent évidemment pas mal de problématiques, ce qu'on appelle les cités. Et donc on fait avec ça aussi dans notre patrimoine. Voilà, hop, j'ai beaucoup d'images, hein, voilà, c'est les grands ensembles. J'ai pas de texte sur mes diapos, mais voilà. Donc aujourd'hui, le logement, c'est un produit en marché, industrialisé, banalisé, standardisé, normé, quantifié. C'est un bien culturel qui est vraiment traité comme un produit qui est mis sur le marché et en plus... dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Nous, à Bordeaux, on était 5 bailleurs sociaux il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est plus de 15. Donc, on est dans une arène de plus en plus concurrentielle et on devient des entreprises en marché. Du coup, on ne sait plus trop faire puisqu'on avait un peu ce rôle-là où on avait un peu pas le monopole, mais en tout cas, il y avait une part du logement qui nous était dédiée. Et aujourd'hui, on est vraiment mis en concurrence avec le privé, entre bailleurs. Et donc, face à ça, il faut qu'on puisse réagir. Et du coup, le positionnement d'Aquitanis, ça a été de se dire, bah, si on prend les différentes stratégies de Michael Porter, il y en a une, soit on produit du chiffre, on fait du volume, soit on se différencie. Et nous, on a plutôt choisi la stratégie de différenciation et où on s'est dit, bah, soit on ne peut pas vraiment sortir de la production marchande puisqu'on est quand même dans le système, donc il faut qu'on trouve une autre voie, c'est un peu la voie du milieu, et c'est celle qu'on a choisi d'adopter. Et dans cette voie-là, il nous semblait que c'était déterminant d'abord de re-questionner la vocation d'un bailleur social, de re-questionner nos pratiques. On était dans des pratiques, et on l'est toujours à certains égards, dans des pratiques très segmentées, où chacun son travail, et puis on se repasse le bébé, et puis il n'y a plus trop de communication entre les services à partir du moment où on décide de construire le logement et jusqu'à la gestion locative. Et donc, pour nous, la voie qui semblait s'ouvrir, c'était une voie un peu différente, c'était donc la voie de la transition, et on s'inscrit pleinement dans la légende du colibri, hein, de Pierre Rabhi, dont on a pas mal parlé ce matin, et où vraiment, il fallait qu'on trouve une autre voie, une autre manière de faire pour nous différencier dans le marché bordelais. Et puis parce qu'il nous semblait que c'était important de faire différemment le logement, d'avoir une approche un peu différente. Et donc on est plutôt rentré dans ce mouvement de la transition à laquelle on a adjoint un adjectif. On parle de transition conviviale. Donc est-ce que c'est un avatar de la sobriété heureuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a adjoint cet adjectif-là au terme de transition, sinon c'est un terme qui est un peu usé à toutes les sauces. Donc faire plus avec moins, ça aussi, c'est quand même plus que communiquer et circuler aujourd'hui. Et donc nous, notre transition, on s'est dit, ben, finalement, il faut qu'on passe de l'injonction qu'on a de loger des gens à permettre à des gens d'habiter différemment, d'habiter leur logement différemment, mais d'habiter leur résidence, leur quartier, leur ville différemment. Et pour ça, on est obligé de sortir de la production un peu marchande du logement, où tout est pensé à l'avance par le producteur du logement. Et là, on était vraiment, et on l'est toujours à certains égards, hein, héritier de la charte d'Athènes de 1933 et quelques, sous l'égide de Le Corbusier, si je ne m'abuse, où il y avait le logis exact. On avait tout pensé à l'avance pour les personnes. Et on est encore dans cette logique-là, puisque si on lit la thèse de Vincent Renaud, là, dont on parlait l'autre jour, qui sur la fabrication et usage des écoquartiers, il raconte un peu dans sa thèse que justement, on continue de penser pour les gens la bonne manière d'habiter le logement, mais comme les gens sont des bourriques, on leur met des sols qu'il faudrait laver à l'eau et y mettre du produit, donc ça bousille les sols. Ils aèrent pas bien, il faut aérer 10 minutes par jour pour que la VMC marche bien, mais ils sont têtus, ils veulent pas ouvrir parce que l'hiver ça caille. Enfin bon, voilà. Donc on est encore vraiment dans cette dynamique de on pense le logement à la place d'eux. On est dans une approche très, très standardisée du produit logement, alors que nous, on a la conviction que l'habitat, c'est un bien culturel partagé qui doit être coproduit, singulier et convivial. Et du coup, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on s'est mis en marche depuis pas mal de temps chez Aquitanis. Et pour effectuer cette transition, ça va forcément passer par la rencontre avec les habitants, mais aussi la rencontre avec les acteurs du terrain, les politiques, les entreprises, les promoteurs avec lesquels on va travailler. Et du coup, c'est dans cet échange convivial qu'on va pouvoir trouver, finalement, c'est pas tant un sacrifice, mais c'est la justesse du produit qui va à la fois répondre aux besoins des futurs occupants et en même temps pouvoir, d'une certaine manière, appréhender les grands enjeux du développement durable qui nous semblent parfois difficiles à attraper à notre mesure. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion pour moi de sacrifice dans de ce que raconte un peu Vincent Renaud, quoi, dont tout est pensé à l'avance pour l'habitant. Et du coup, il se retrouve dans un écoquartier, il n'a pas de place pour sa bagnole alors qu'il est complètement autodépendant. Il n'a plus trop le choix de comment vivre, lui, la façon dont il veut appréhender lui-même les enjeux du développement durable. On lui impose une manière de faire. Et donc nous, on essaye de sortir un petit peu de ça. Mais pour ça, il fallait d'abord qu'on se questionne et qu'on se dise, nous, bailleurs sociaux, comment est-ce qu'on comprend le développement durable ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, bailleurs sociaux, autre que les règles, les réglementations thermiques, les normes d'isolation, les bâtiments BBC, le bâtiment passif, le smart building, tout ce que vous voulez. Il fallait que, enfin, en tout cas, c'était la démarche d'Aquitanis, il fallait qu'on comprenne comment est-ce que nous, on attrapait cette dimension du développement durable. Et du coup, on essaye petit à petit de voir comment est-ce qu'on l'incarne. Et pour nous, donc peu à peu, dans l'action, par tâtonnement, c'est fait d'essais, d'erreurs, on se donne le droit à l'erreur. Il y a trois sens communs et trois dimensions qui nous semblent être à notre mesure et qui nous semblent répondre à des enjeux du développement durable. D'une part, intégrer la compétence habitante. Finalement, dans un monde où toutes les ressources s'épuisent, celle qui nous semble pas s'épuiser du tout, c'est la ressource humaine. Et donc, pourquoi pas s'appuyer plus dessus et aller chercher avec elle et justement travailler cette acceptation de ce dit sacrifice qui vient comme une donnée exogène là, qui s'impose à nous. Et donc, voilà, travailler, intégrer la compétence habitante dans nos projets. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est co-concevoir un habitat essentiel. Et là, à ce niveau-là, on se met un petit peu en décalage par rapport à nos confrères, puisque aujourd'hui, tout le monde va vers le smart building, bâtiment intelligent, le BIM et compagnie, qui repose essentiellement sur la capacité de nos centrales à produire de l'électricité. Et si ça s'arrête demain, il n'y a plus d'électricité, donc on n'a plus exactement la consommation d'eau et de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui est dans le smart building. Et donc nous, on s'est dit finalement, un peu aussi avec les travaux de Vincent Renaud, où on se dit, mais finalement, ce qu'il faut, c'est un habitat qui soit à la main du locataire. Finalement, c'est assez intuitif, quoi. On aère, enfin voilà, il y a des choses qui sont pas si compliquées que ça à attraper pour être dans une dynamique respectueuse de l'environnement. Et donc, pour nous, co-concevoir un habitat essentiel, c'est de trouver le bon équilibre entre les équipements à avoir qui semblent incontournables et la simplicité et l'élémentarité de notre production de l'habitat. Et puis la troisième dimension qui nous semble importante, c'est la nature urbaine. Il y a quand même une grande séparation aujourd'hui entre nature et culture. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un retour de l'urbain vers la nature, ou en tout cas un besoin de l'urbain d'aller mettre les mains dans la terre. Il y a vraiment quand même cette mouvance qui est là. Et nous, on va un peu au-delà. C'est à un moment, il faut qu'on participe à la capacité du territoire à produire l'alimentation pour son autosuffisance alimentaire. C'est vraiment une des convictions de l'entreprise. Et donc, quand on aborde nos projets, à chaque fois, on revisite un peu ces trois thématiques en se disant finalement, voilà, comment est-ce qu'on va attraper les choses. Et pour nous, c'est ça la compréhension qu'on a du développement durable aujourd'hui pour le bailleur social que nous sommes. Du coup, une fois qu'on a dit ça, c'est à partir de ces trois dimensions aussi qu'on va pouvoir lancer un dialogue convivial avec les personnes avec qui on va avancer et monter des projets. Pour enclencher cette transition, il fallait qu'on règle un peu la question de l'échelle. De quel territoire on parle et qu'est-ce qui est à notre mesure? Tout à l'heure, vous parliez de la capacité d'action, clarifier sa capacité à agir. Et nous, on a eu besoin de se dire, mais finalement, produire la ville, c'est pas à notre mesure. Ça, c'est Bordeaux Métropole qui décide des grandes politiques du développement durable. Et donc, nous, on a besoin à un moment de savoir qu'est-ce qui est à notre portée. Et ça, ce sont des travaux de géographes que sont Guy Dimeo et Michel Lusseau qui nous ont beaucoup aidés à avoir cette appréhension de l'espace en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui est à notre portée et sur quoi on va pouvoir agir, tout en acceptant qu'on est limité. Et en fait, j'ai l'impression aussi que depuis ce matin, ce qu'on se raconte, c'est que finalement, dans cette ère un peu anthropocène où on est en train de se bouffer un peu, finalement, il y a la question de la toute-puissance de l'homme sur lui-même et sur la nature, et que finalement, revenir à l'acceptation de nos limites, que nous sommes des êtres finis, que nous sommes des êtres limités, elle apporte aussi cette forme de sobriété. Et du coup, ça veut dire qu'on accepte aussi que Bouygues continue à couler du béton derrière chez nous à outrance, parce que c'est comme ça, on ne peut pas avoir la main sur tout. Et donc, on se limite à notre petite unité. Et donc, on sait qu'on a la capacité à gérer des lieux. Alors, les lieux, voilà, Michel Lusseau en a pas mal parlé dans l'homme spatial. Un lieu, c'est vraiment la plus petite unité spatiale complexe selon une logique de coprésence. Un lieu, pour nous, ça peut être une résidence de 25 logements jusqu'à une zone d'aménagement concertée de 15 hectares. Ça dépend un peu du projet qui est dessus. Mais à chaque fois, on va l'approcher de manière assez singulière et avec aussi une double approche qui nous est inspirée des travaux de Guy Dimeo. C'est un géographe qui a travaillé sur l'appréhension du territoire. Et il dit qu'il y a deux dimensions dans les lieux, dans le territoire. En tout cas, il y a une dimension matérielle et une dimension idéale. La dimension matérielle, c'est le déjà-là, ce qui existe. Enfin, c'est assez facile à appréhender. La dimension idéale est un peu plus complexe, puisque c'est les relations entre les personnes, c'est l'histoire du lieu, son identité. Donc c'est toujours avec ces deux approches qu'on appréhende un projet pour essayer de bien comprendre là où on met les pieds et là où on est. En tout cas, c'est ce qui nous aide. Et donc, on développe plusieurs lieux, comme ça, un peu partout sur la métropole. C'est ce que je disais à midi à Jérôme, c'est qu'à l'échelle d'Aquitanie, sur les 20 000 logements qu'on gère, c'est finalement relativement peu. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça concerne 1 000 logements, peut-être. Pas tellement plus, je pense, peut-être un peu plus, mais franchement pas tellement plus. Et en même temps, ça nous va. On est bien comme ça, on en développe d'autres, et on cherche à en développer d'autres. Mais en tout cas, ce sont nos premiers lieux d'expérimentation, et on est vraiment dans un processus itératif où on navigue entre l'expérience, la relecture, Ce matin, vous disiez l'importance de la narration. Il se trouve que nous, on a un directeur général qui est sociologue, donc c'est un peu un hulu-berlu bizarre dans le monde du HLM, mais qui néanmoins nous force à raconter les histoires. Et donc là, j'ai pris deux bouquins avec moi qui vous sont destinés, qui sont destinés aux organisateurs de la session, où M. Blanc a demandé aux équipes de raconter pour faire émerger la valeur créée dans ces lieux singuliers, raconter l'histoire. Et il parle de mise en récit, où il demande aux équipes et à...
On peut les faire tous.
Oui, oui, ils sont les deux là, ils sont tous les deux là. Alors il y en a un, c'est vraiment la parole des équipes et des promoteurs et des architectes qui travaillent avec nous, chacun avec ses mots. Sans trop de censure, voire pas du tout. La deuxième, ce sont les travaux de Bernard Blanc, qui donc est sociologue, et donc c'est plus étoffé. Il y a des références beaucoup plus costauds sur toutes les personnes qui façonnent aussi notre approche de la transition et du développement durable. Ils sont tous les deux à vendre aux éditions Muséo. Voilà, et dans cette approche des lieux, c'est vraiment pour nous permettre de rentrer en connivence avec le territoire, la volonté d'être en cohésion avec ce territoire qui est irrigué de la participation citoyenne, quelles que soient ses formes. Donc c'est vraiment cette dynamique-là. Les lieux, ils ont tous un déjà-là, il y a toujours quelque chose, peu importe où on arrive, et donc il s'agit vraiment de saisir le déjà-là, de le comprendre, pour essayer de fertiliser l'opération et de mener à bien les projets. Et à chaque fois, c'est ce que je disais, nos lieux, ils sont vraiment amarrés sur la matérialité et l'idéalité, l'identité des lieux. Je vais vous donner des exemples, c'est pour ça que je passe vite un peu sur l'approche un peu plus théorique. Tous nos lieux, ils sont approchés de manière très singulière, avec le respect de chaque identité du territoire. Et on considère chaque lieu comme un écosystème à chaque fois. Et donc aujourd'hui, avec cette approche bienveillante et à chaque fois, hein, vous rappelez, associer les habitants, avoir un habitat assez essentiel, ramener la nature en ville, on arrive à des expériences assez étonnantes où on livre des logements qui ne sont pas finis, où il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de finition, il n'y a pas de cloison. On partitionne avec les habitants. On arrive à livrer des zones d'aménagement concertées de plus de 9 hectares où on a sorti la voiture de l'espace urbain pour la mettre en dehors de l'espace urbain dans un grand parking à 450 places. Mais néanmoins, la voiture n'a pas sa place dans un ensemble urbain qui, en général, est très auto-centré, automobile. On arrive à construire des logements où il n'y a pas de chauffage. Parce que, en fait, il se trouve que... je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais en gros, les rapports du GIEC montrent que la région sud-ouest, et Bordeaux entre autres, sera parmi les régions les plus touchées, en France en tout cas, par le réchauffement climatique. Et donc, il prévoit que d'ici 2050, on aura la température... 2025, je crois que c'est Pise, et 2050, c'est Marrakech. Ce sont les prévisions du GIEC. Et du coup... Ça, on est obligé, si on prend en compte ça, on est obligé de revoir notre façon d'habiter, puisque dans la manière de produire le logement, en général, la question principale, c'est de régler le confort d'hiver. Et finalement, la question de demain, c'est de régler le confort d'été. Et donc, du coup, essayer de travailler avec les habitants sur cette compréhension des enjeux et cette connaissance des enjeux pour les amener à faire différemment. Et vous verrez qu'à la fin, c'est plutôt nous qui faisons des sacrifices que les habitants. Voilà, on arrive à construire 120 logements sociaux dans des zones extrêmement tendues, où en général les permis de construire sont constamment attaqués devant les tribunaux et les opérations prennent 3, 4, 5 ans de retard. Et nous, on a des PC qui sont validés alors qu'il a fallu détruire 120 maisons d'une ancienne cité ouvrière pour reconstruire 120 logements, enfin même plus que 120, 250 logements sociaux. On arrive à faire réhabiliter les maisons par les habitants eux-mêmes et on arrive à faire entretenir les espaces verts par les habitants eux-mêmes dans une démarche écologique. Donc comment est-ce qu'on y arrive? C'est qu'en général, on est vraiment la coopération au cœur de nos projets et on partage les exigences avec les habitants. Paul Boncourt, c'est un projet co-conçu de 120 logements avec 120 riverains impliqués. C'est la zone où je vous disais que les PC sont sans cesse attaqués. Et il se trouve que c'est dans une zone qui est très proche de la Garonne, et on est dans le lit majeur de la Garonne, qui déborde souvent, et donc les riverains, déjà présents, sont sans cesse envahis par l'eau lors des crues de la Garonne, et peuvent avoir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, quand il y a des grandes inondations, dans leur maison. Et donc, on a passé plus d'une semaine avant de lancer le projet, on a passé, je dirais plus, plutôt un mois, à planter la tente, littéralement, à faire un bivouac sur le site où on allait démolir les maisons ouvrières et reconstruire les logements sociaux en habitat collectif. Donc on détruit de l'individuel, on construit du collectif. Et on a passé une semaine à construire avec les riverains, à aller faire du porte-à-porte avec les riverains pour essayer de comprendre la conscience des lieux qu'ils ont, eux. Et à partir du moment où on a commencé à s'accorder ensemble sur les enjeux du territoire et sur les enjeux du lieu, et notamment la présence de l'eau, et d'avoir une contrainte qui devient une donnée du lieu, et donc avec laquelle il faut faire avec et pas faire contre. Et du coup, l'architecte qui est Philippe Madec qui a opéré là-dessus a réalisé un ensemble de logements et qui a imaginé tout un système de captation des eaux lors des prochaines inondations, parce que là il faut savoir que c'est 120 logements sociaux qui sont construits sur à côté d'une maison, d'une rangée de maisons individuelles en pierre qui sont très chères au Bordelais, les échoppes bordelaises, et donc vraiment c'était abject de venir construire du logement social contre cet endroit-là. Et finalement, en essayant de capter aussi, parce qu'en plus, il se trouve qu'on est tombé sur des riverains qui étaient plutôt réceptifs aux enjeux écologiques. Donc certains avaient mis des panneaux solaires pour produire leur propre énergie. Ils avaient peur que le bâtiment vienne empiéter finalement sur leur soleil, leur ensoleillement. Et une fois qu'on a eu compris ça, avec les habitants, avec les architectes, on a pu co-construire ce projet d'habitat collectif, d'avoir vraiment des allers-retours. Ils faisaient les premiers dessins, on revenait, on a baissé, donc c'est là où je dis on a fait un sacrifice, c'est qu'on a baissé parfois, et donc on a refusé, enfin, on s'est assis sur un certain nombre de logements sociaux qu'on aurait pu construire. Les riverains nous ont dit pourquoi vous ne faites pas de l'accession sociale en habitat participatif ? Bah, finalement, on s'est laissé bousculer aussi par cette appétence qui se développe de plus en plus, en tout cas sur le territoire bordelais. Il y a de plus en plus de projets d'habitat participatif qui se développent, et du coup, on s'est dit, bah oui, après tout, tiens, pourquoi pas, on va mettre un projet d'habitat participatif. Et donc, c'est vrai que chaque acteur, riverain, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, a vraiment été dans ce dialogue productif pour essayer d'arriver au bon projet, au projet juste, qui respectait finalement un peu les exigences de chacun, quoi. Nous, on avait besoin de sortir du logement social, et en même temps, on avait besoin de comprendre quelle était l'appréhension des riverains par rapport à cet environnement, quelle était finalement leur conscience des lieux qu'ils avaient. Et du coup, bah, ça y est, on a lancé les travaux, et puis on continue de construire avec les riverains le projet. Ça c'est un autre projet, c'est une résidence solidaire, il y a 26 logements, et ce sont à moitié de personnes âgées, à moitié des personnes de plus de 60 ans et des personnes de moins de 30 ans, à qui on a proposé de vivre une forme de solidarité. L'idée c'était pas du tout d'écrire une charte de bonnes intentions, parce qu'on sait bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc on leur a juste dit voilà, nous, il nous semble que la place des personnes âgées dans l'espace urbain, elle est pas à sa juste place. Les personnes âgées sont cachées. On a une approche du logement en tant que bailleur social extrêmement segmentée. On a les logements étudiants, on a les logements familiaux, on a les EHPAD, les RPA. Et donc nous, on voulait créer cette forme hybride de l'offre qui semblait répondre aussi à un désir des élus de voir les aînés un peu plus dans la cité et en même temps de créer du lien entre générations. Puisque ce lien semble se distendre de plus en plus. Et donc on a créé cette résidence, et on l'a vraiment pensée dans sa dimension matérielle, en se disant, pour favoriser la rencontre, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Et donc les architectes, on a vraiment travaillé avec eux en disant, il faut des espaces de rencontre, donc on a mis des coursives qui font 1,50 m, des balcons pour chaque logement, enfin, on a vraiment travailler sur la matérialité du lieu au service de l'idéalité qu'on voulait atteindre, qui était la rencontre entre les générations. Et après, pour couronner le tout, il fallait que ces personnes-là, elles se rencontrent autour d'une activité, puisqu'il n'y a que quand on fait ensemble qu'on arrive à se rencontrer, ou en tout cas c'est un postulat de base qu'on pose. Et comme on est très attaché à la culture de la nature en ville, on a mis des jardins partagés pour qu'ils puissent se rencontrer autour du jardin. Et c'est assez étonnant de voir comment cette résidence vit. Et assez étonnant de voir tout l'inattendu des relations qui se créent qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et à la fois, la richesse de l'approche d'Aquitanis, c'est que c'était très clairement expliqué aux équipes que si la mayonnaise ne prenait pas entre les habitants, c'était pas grave. On a droit à cette erreur-là. C'est pas grave. Nous, notre boulot, votre premier, c'est de construire du logement. Et là, on avait fait le job. On avait logé 25 personnes de plus, 25 foyers de plus. Et du coup, d'avoir cette souplesse entre bah, « c'est pas grave si on n'y arrive pas », finalement, les équipes se sentent investies différemment. Elles font bouger leur métier pour s'adapter aux besoins particuliers de la résidence. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Et c'est un produit qu'on développe maintenant, qui fait vraiment partie de notre offre à Aquitanis, les résidences solidaires. Alors, j'arrive plus à avancer les... Ah voilà. Locus Solus, donc ça c'est un projet d'habitat participatif locatif. On a 46 logements. C'est assez singulier hein, parce que normalement l'habitat participatif c'est plutôt en accession à la propriété. Et là on est sur du logement locatif. Pareil, on, c'est vrai que quand on. Vous parliez tout à l'heure de la contrainte, on revient souvent à la contrainte, et si on s'arrête à la contrainte, on ne va pas très loin. Et en l'occurrence, l'habitat participatif locatif, réglementairement, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'attribuer un logement social plus de 3 mois à l'avance à son futur occupant. Donc nous, on a pris un risque, en fait. Et on a été très clair avec les habitants sur le risque qu'on a pris avec eux, de dire, voilà, nous, on se lance avec vous dans ce projet-là. Il y aura toujours un risque que la commission d'attribution de logement décide que ce ne soit pas vous qui soyez attributaire du logement. Évidemment, on va essayer de s'en prémunir en essayant de faire un travail de sensibilisation pour leur dire que vous avez travaillé depuis 3 ans sur la partition de vos logements et tout ça. Néanmoins, voilà, est-ce que vous êtes prêts à courir ce risque en ayant toutes les données ? Ouais, ouais, on est prêts, on y va. Et là, sur ce projet-là, c'est assez intéressant parce que... on est tombé sur des locataires du parc social et c'est vrai qu'on a... Les gens dans le parc social, en général, on se dit les pauvres, bon, ils n'ont pas forcément de développement durable à cœur. Enfin, c'est des idées comme ça qu'on a des gens. Et en fait, eux, ils nous ont carrément poussé dans nos retranchements parce qu'ils ont dit, attendez, vous voulez qu'on soit écolo. Nous, on veut des poêles à bois, on veut des toilettes sèches, on veut une ferme urbaine. Enfin, ils ont vraiment poussé le bouchon et du coup... C'est assez rigolo cette expérience par rapport à toute la notion de sacrifice qu'on entend depuis ce matin. Je pense que vous livrez un logement avec des toilettes sèches à quelqu'un qui n'a rien demandé, il le prend un peu comme une contrainte. Mais là, ils nous ont pris de court. Donc nous, la condition qu'on a posée, c'était OK pour les toilettes sèches, on y va avec vous. Par contre, il faut que ce soit réversible. Ça veut dire que votre logement ne vous appartient pas. Si un jour vous en partez, il faut qu'on ait des attentes pour pouvoir poser des toilettes classiques si les prochains locataires veulent des toilettes classiques. Les poêles à bois, eh ben c'est pareil, on en a beaucoup discuté. À chaque fois, on se faisait aider de gens qui permettaient aux habitants de comprendre le pourquoi des choix. Et donc le poêle à bois, c'était trop compliqué en collectif, c'était trop dangereux. Et donc c'est vraiment dans le dialogue, dans l'échange, en donnant aux personnes à comprendre pourquoi on ne pouvait pas faire ce choix, mais qu'on pouvait faire d'autres choix qui étaient eux aussi écologiques, qu'on arrivait à faire ces choix justes, et qui soit à la fois dans le respect de certaines contraintes qu'on a, nous, bailleurs sociaux, d'assurer la garantie de nos bâtiments, et en même temps qui répondent à des exigences qu'on n'avait juste pas vu venir du tout, quoi. De la même manière que quand on leur a dit vous allez pouvoir faire le logement que vous voulez, vous allez pouvoir le partitionner, on s'attendait à des demandes un peu démesurées, et finalement, on avait des demandes qui étaient très simples. On avait une dame qui me disait, moi je veux absolument une fenêtre dans ma salle de bain. Parce que j'ai toujours eu des salles de bain aveugles, parce que c'est vrai que dans le logis, un peu pensé à l'avance, on fait souvent des pièces aveugles dans les salles de bain. Et elle disait, moi, mon grand bonheur, ce serait d'avoir une fenêtre dans ma salle de bain. Bon, du coup, on se rend compte que les attentes ne sont pas non plus démesurées et qu'on arrive à trouver le juste équilibre dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est une opération de réhabilitation. Alors, toujours dans l'idée de respecter le déjà là, le Grand Parc c'est un ensemble de 4000 logements, on est propriétaire de 2300 logements, c'est des grandes barres comme vous pouvez le voir, qui étaient laissées à l'abandon, fléchées pour la démolition par le programme national de la rénovation urbaine. Il se trouve que là, pour le coup, on a un directeur général qui est un fervent défendeur de la modernité surtout qui ne supportait pas l'idée de détruire des logements qui, en fait, avaient un énorme avantage, c'est qu'ils étaient en R+16, quand on sait qu'aujourd'hui, la régulation à Bordeaux, elle nous autorise à aller en R+3, +4, +5, rarement. Et donc avec une vue sur tout Bordeaux complètement impressionnante et dont on ne tirait pas profit. Et donc on a adjoint des jardins d'hiver sur ces logements. On a donné donc de la générosité à ces logements et on a rajouté 25 à, 30, à 45 mètres carrés de surface. Alors il n'y a pas de surloyer puisque du coup ce sont des surfaces qui ne sont pas chauffées, mais qui vraiment renouvellent la façon d'habiter. Et c'était aussi un grand coup à marquer pour dire dans ce quartier d'habitat social, il y a vraiment tout pour faire revivre, réenchanter la modernité qui semblait vraiment oubliée. C'est le quartier où il y a le plus de services quasiment concentrés dans Bordeaux. Il y a plein d'écoles, il y a un centre social, un centre d'animation, une piscine, un complexe sportif, enfin, il y a tout. Sauf que ça souffre de son image. Et donc nous, vraiment, dans cette idée de régénérer la ville et régénérer la façon d'habiter ces grands quartiers d'habitat social, ça nous semblait être important de taper un grand coup dans la rénovation, dans le démarrage de la rénovation qu'on faisait de cet habitat. En plus, du coup, on est maintenant sur un réglage bioclimatique du bâtiment, alors que c'était des passoires thermiques. Mais ça, c'est un détail. Ça, c'est la zone d'aménagement concerté des sécheries à Bègles. Et c'est là où je vous disais qu'on a réussi à livrer un parc on parle d'un parc habité de 9 hectares où on a mis la voiture dehors. Et là, ça a vraiment été un dialogue extrêmement fin, extrêmement itératif entre les services de la ville, la métropole, les architectes, pour faire accepter que la voiture soit sortie de l'espace et pour vraiment créer. Et là, c'était vraiment en cohésion aussi. On est sur la ville de Bègles, qui est très écologique elle aussi, puisqu'elle avait un maire assez connu pour ça. Puis l'environnement dans lequel on construisait portait vraiment à cette attention portée à la nature en cet espace précis. Et là, il a vraiment fallu dialoguer sévère avec les promoteurs immobiliers qui en général sont là pour maximiser leurs profits sur les opérations de construction. Et là, on les a vraiment amenés à travailler différemment, à produire des logements collectifs avec des espaces en plus, avec des espaces partagés qui sont moins rentables pour eux, mais c'est vraiment une attention particulière portée à cet espace-là. Et c'est vrai que nous, on parle d'un réseau de valeurs. Aujourd'hui, dans la théorie ambiante de la RSE et du développement durable, on parle souvent des parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est souvent une liste à la Prévert de tous les gens avec qui on interagit, plus ou moins quotidiennement ou pas. Et le réseau de valeurs, c'est en fait pour nous les parties prenantes choisies qui s'engagent avec nous à faire bouger les lignes. Et du coup, toutes les parties prenantes ne font pas partie de notre réseau de valeurs. Et on s'attache vraiment à chacun de nos projets, essayer de déterminer quel est notre réseau de valeurs local sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire bouger les règles et puis les normes acceptées d'habitude. Voilà, celui-là je passe. VIM, c'est assez intéressant, c'est la diabolo après. C'est assez intéressant, toujours dans cette notion d'habitat essentiel, aimable avec le déjà là. VIM, on est sur une zone classée, dans la zone du PPRI, donc le plan de prévention du risque des inondations. Et on avait une cote pour construire qui était placée à 1,50 m de mémoire. Et donc, ce qui fait que les habitations devaient forcément être surélevées parce que la Garonne est un risque majeur, elle risque de déborder régulièrement. Et donc nous, on s'est dit, finalement, dans l'habitat essentiel, dans l'appréhension qu'on a de l'environnement, finalement, cette Garonne, c'est pas un risque, c'est une donnée, c'est un avantage, c'est un élément naturel du territoire. Et on va prendre des choses un petit peu différemment. Et donc, on s'est dit, on va construire sur pilotis, on n'a rien inventé, en fait. Dans tous les pays asiatiques ou même ailleurs qui vivent en Bordeaux, tout le monde construit sur pilotis. Il n'y a que nous qui nous efforçons à vivre à ras des pâquerettes, même au bord des fleuves. Et donc, du coup, on a construit sur pilotis, mais en se disant, finalement, Est-ce que plutôt que de construire juste à la côte, on ne construit pas en fait avec une hauteur qui permettrait, le jour où ce risque d'inondation est évacué par la construction d'une digue, qu'on puisse cloisonner la partie du bas et faire la pièce en plus, parce qu'on parle de plus en plus d'une injonction de construire des logements évolutifs qui s'adaptent au changement de la société, de la grand-mère qui revient vivre ici, l'ado qui veut son studio indépendant, et donc d'être déjà dans cette anticipation-là, avec, et donc on a construit sur pilotis, avec du coup on a mis toutes les attentes, encore une fois, électriques, eau et tout ça, tous les câbles, pour pouvoir à un moment cloisonner si le PPRI se levait à cet endroit-là, et continuer de faire évoluer le bâtiment au fur et à mesure de sa vie et de la vie avec les locataires. Je fais un peu une énumération de projets, puis après je vais m'arrêter. Bungaline, alors ça c'est encore un peu différent, c'est une toute petite opération de 9 logements. Et là, on les a livrés comme ça, les logements. Donc il y a de la peinture vite fait sur les murs aux côtés. Il n'y a pas de peinture au sol, il n'y a pas de peinture au mur, il n'y a pas de tapisserie, il n'y a rien. Et puis il n'y a pas de cloison. Et on a vraiment dit, on va cloisonner, on va partitionner avec les habitants. C'est eux qui vont nous dire où est-ce qu'ils veulent qu'on pose les cloisons. On avait plusieurs options de cloisons, avec des meubles cloisons ou des cloisons en bois, assez simples. Et on a vraiment cloisonné avec les habitants. On avait fait la même chose sur le projet VIM. Mais la petite anecdote marrante sur Ben, c'est qu'on avait dit aux habitants, ben, quand vous voulez partitionner votre logement, vous levez la main, puis on travaille avec vous, avec les architectes. Mais par contre, prévenez-nous, parce qu'il y a quand même un délai de construction, des plaques et tout. Donc il faut, avant telle date, vous devez nous prévenir. Et puis il y avait une maman qui était avec ses deux filles, qui habitaient dans le logement. Et elle s'est manifestée trop tard. Et donc on lui a dit, bon ben, désolé, prochain service dans 3 semaines, on reviendra dans 3 semaines, mais en attendant, vous vivez dans votre logement non partitionné. Et puis quand les architectes sont revenus 3 semaines plus tard, elle a dit, ben en fait, je n'ai plus de cloison. Parce qu'en fait, j'avais jamais eu 80 mètres carrés comme ça d'espace pour ma fille, pour mes filles et moi. Et du coup, elle s'était réglée la question de l'intimité, parce qu'on sent bien quand même que dans au fur et à mesure des expériences, on sent bien que quand même l'intimité, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à sacrifier et qui est quand même à préserver dans la notion de sacrifice. Donc elles avaient réglé la question de l'intimité avec des draps, avec des meubles. Elles l'avaient réglé elles-mêmes. Et elles ont dit, bah, finalement, on veut pas de cloison parce qu'on a trouvé à vivre différemment dans cet espace-là. Et on veut surtout pas recloisonner parce qu'on va perdre de l'espace. Alors que la surface reste la même, mais... c'était assez rigolo parce qu'au début on s'en est pris un peu plein à la tronche, elles n'étaient pas contentes parce qu'il y avait un délai, parce qu'elles ne voulaient pas vivre en camping et tout, puis finalement c'est elles qui nous ont dit bah non, finalement on ne veut pas partitionner pour l'instant, on verra si on change, si mes filles deviennent des ados et qu'elles ont besoin d'une intimité plus marquée, ben, on fera appel à vous. Et comme il y a ce côté très réversible, on a cette latitude là de pouvoir construire. Donc là, au début, elle l'a un peu vécu comme un sacrifice imposé et douloureux. Et finalement, elle nous a dit, bah non, finalement, ça me va bien, moi. Je ne veux plus partitionner mon logement. Voilà, donc ça, c'est encore une... Non, c'est intéressant. Voilà, donc je vais juste conclure sur cette diapo. Ce qui est vraiment important dans toute la démarche d'Aquitanis, c'est la notion de rencontre productive avec les salariés, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les habitants, et où chacun remet en jeu ses pratiques, qui permet vraiment la transaction, enfin un échange convivial avec le monde, entre guillemets, enfin avec les lieux qui nous sont donnés d'habiter. Et c'est vraiment ça qui est aujourd'hui la clé un peu de la réussite de ces différents projets. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on arrive à, entre guillemets, pousser le bouchon assez loin dans notre approche développement durable et notre approche de la transition, d'entreprise en transition sur la métropole bordelaise qui n'en finit pas de se développer, qui n'en finit pas de couler du béton. Et voilà, donc c'est une approche assez singulière dans le paysage bordelais, mais qui nous semble aujourd'hui la réponse pertinente. Voilà, on verra bien comment ça évolue, comment est-ce qu'on fait émerger de nouveaux projets. Voilà. Avec encore, je redis, hein, cette importance qui est imposée pour le coup par le directeur général de, à chaque fois, mettre en récit nos actions pour faire émerger le sens et la valeur de l'action. La valeur au sens d'un philosophe pragmatique américain qui s'appelle John Dewey, qui est ce par quoi nous tenons et ce à quoi nous tenons. Donc c'est vraiment cette approche-là qui est un peu le fil conducteur de toutes nos expérimentations sur le territoire de la métropole bordelaise.